À l'ère des neurosciences, peut-on continuer à enseigner aux enfants sans tenir compte du fonctionnement de leur cerveau ? L'enfant naît câblé pour apprendre et pour aimer. Or, le système éducatif, le français, semble pour beaucoup inadapté. Il peut freiner l'apprentissage des enfants et n'encourage pas vraiment leur bienveillance innée. C'est ce que vous écrivez, Céline Alvarez, dans votre best-seller « Les lois naturelles de l'enfant » paru aux Arènes. Céline, bonjour.
Bonjour.
Nos auditeurs vous connaissent bien, car à la sortie de votre livre, nous avons déjà eu la joie d'enregistrer deux émissions ensemble de La vie est un art. Et nous avons souhaité approfondir nos connaissances sur les lois naturelles de l'enfant avec vous. Alors, comment soutenir le développement des compétences de l'intelligence des enfants en respectant leur rythme ? On peut déjà partir tout simplement du nourrisson. Vous écrivez que déjà, il est attentif au langage.
Oui, parce que le jeune être humain, dans les premières années de sa vie, va vraiment recueillir les informations du monde extérieur par le canal de ses sens pour former les structures fondamentales de son intelligence, de ses structures fondamentales cérébrales, dont le langage. La première année, hein, il y a une forte période sensible langagière où l'enfant va être vraiment pleinement attentif à notre voix, à nos mouvements de lèvres pour absorber quelque chose de l'environnement, là, sur les grandes lois langagières de son environnement.
On pense aux berceuses, bien sûr. Est-ce qu'il est bon de chanter aux enfants ?
Du coup, c'est pour ça qu'on leur chante spontanément. On va intuitivement leur chanter des chansons, leur raconter des histoires, moduler notre voix, baisser le ton de notre voix. On sait que c'est des choses que les enfants, les tout jeunes enfants, les bébés, vont adorer. On va voir leurs yeux qui vont s'ouvrir tout grand. Ils vont être dans une attention pleine, profonde, et puis une grande satisfaction aussi, quand ils vont nous entendre chanter des chansons ou leur parler avec une voix douce et calme, en insistant peut-être plus sur les voyelles. On voit que ça les rend extrêmement satisfaits, joyeux. Et en fait, on sent que ça nourrit quelque part un besoin qui était là, qui demandait d'être satisfait et qui l'est. Donc nous répondons de manière spontanée finalement aux besoins qu'ont les enfants à cet âge-là, simplement en leur chantant des chansons. Ouais. Même les enfants, on remarque que les jeunes enfants, même de 3, 4, 5 ans, vont spontanément s'adresser de la même façon à un enfant. Ça a été remarqué.
Ah oui.
Parce qu'il y a vraiment quelque chose chez l'être humain qui a une prédisposition à apporter l'étayage adapté aux plus jeunes. Et même les jeunes enfants vont avoir cette posture-là naturelle, qu'on appelle la posture pédagogique naturelle, finalement, avec les plus jeunes. Ils vont adapter le ton de leur voix, leur débit de parole aux plus jeunes. Voilà, pour s'adapter à leur niveau et à leurs besoins, finalement.
Là, vous écrivez que l'explosion du langage, ça a lieu vers les 2 ans. Ça veut dire quoi, l'explosion ? Tout d'un coup, ils arrivent eux-mêmes à parler ?
Explosion du langage, c'est-à-dire que pendant les 2 premières années de vie, l'enfant va avoir à emmagasiner suffisamment d'informations pour ensuite, à un moment donné, son cerveau arrive à un état de maturité qui fait qu'il est, les choses prennent sens et s'assemblent les unes avec les autres. Et puis, ça donne des phrases d'un seul coup très élaborées qu'on n'entendait pas forcément avant 2 ans.
Alors, il emmagasine, et puis tout d'un coup, ça sort.
C'est ça. Il y a comme une période de préparation dans l'intimité de ces fibres neuronales qu'on ne voit pas forcément. On peut même avoir l'impression que ça tarde un petit peu, ce n'est pas tout à fait construit. Puis d'un seul coup, pouf, ça sort. Et on se rend compte, d'ailleurs Montessori le disait beaucoup, ça. On pensait que les choses n'étaient pas là, mais en fait elles étaient là. Elles étaient en train de se former dans le cerveau de l'enfant, dans l'intimité de ses fibres neuronales. J'adore dire ça parce que je crois que c'est vraiment ce qui se passe. On ne se rend pas compte, mais il y a énormément de choses qui s'élaborent comme ça, dans la chaleur et l'intimité du corps. Et à un moment donné, ça mature et ça s'exprime à l'extérieur, ce qui était déjà préexistant à l'intérieur. Donc il faut faire confiance. Il y a vraiment des périodes comme ça de sensibilité où les choses vont se construire. Donc à ce moment-là, on est dans une période sensible. L'enfant est très attentif au langage. Il va être, comme je vous le disais tout à l'heure, avec de grands yeux, une grande attention, une grande satisfaction, une grande joie. Et puis progressivement, hop, ça va s'exprimer à l'extérieur. Même si on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se construit ou pas assez vite, eh bien ça se fait, mais on n'en est pas forcément témoin tout de suite.
Là, vous exprimiez dans une émission précédente, d'où l'importance aussi du langage des parents et des frères et sœurs autour de l'enfant, car il emmagasine. Il emmagasine tout ce qu'on va dire, des choses positives et puis quelquefois peut-être aussi des énervements ou des mots qui partent un peu trop vite.
Je ne dirais pas qu'il va emmagasiner exactement tout ce qu'on va dire. Je pense que c'est presque plus embêtant que cela. C'est qu'il va emmagasiner, le cerveau humain va emmagasiner tout ce qu'il va entendre, percevoir de manière fréquente et de manière régulière. Donc finalement, ce sont nos façons de parler ou de réagir au quotidien, ce que nous sommes, tout simplement, au quotidien, que l'enfant va absorber, intégrer, assimiler et encoder, engrammer dans son cerveau. Et finalement, qu'il va reproduire, qu'il va exprimer ensuite à l'extérieur. Donc, ce n'est pas parce que de temps en temps, nous faisons attention à ce que nous disons ou parce que nous faisons de temps en temps attention à ce que nous faisons ou la manière dont nous réagissons, ce n'est pas ces moments-là que le cerveau humain va retenir. Il va retenir ce que nous sommes tous les jours, constamment, au quotidien, de manière régulière. Et finalement, tous ces moments-là où nous ne faisons pas attention, finalement, où nous sommes juste simplement ce que nous sommes. Donc il faut, voilà, c'est compliqué, ça demande une très grande exigence envers nous-mêmes. Et puis, enfin, je dis exigence et j'aime pas dire ça parce qu'après, on peut se mettre une grande pression qui serait inutile. Mais disons qu'il faut revoir progressivement nos habitudes au quotidien, parce que ce sont nos habitudes qui vont s'encoder dans le cerveau de l'enfant, langagière, comportementale, interrelationnelle.
Et entre autres le stress.
Ah oui.
Et ça, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien la plupart du temps et que les enfants sont sensibles au stress.
Le stress que nous leur faisons subir par nos propres stress, le stress qu'ils subissent par des situations stressantes, enfin tous les types de stress, effectivement, déjà nous, adultes, nous les subissons aussi parce que c'est vraiment hautement délétère pour tout le fonctionnement de notre organisme, global, c'est pas juste au niveau cérébral. Là où chez l'adulte, ça vient freiner le fonctionnement normal, on est moins opérationnel sous stress, c'est très clair, mais chez les enfants, ça vient abîmer en fait, parce que le cerveau est encore très immature, et là où le cortisol chez nous, donc la molécule du stress, va venir nous freiner, nous rendre moins opérationnels. Ben, chez l'enfant, si le stress est répété et ou prolongé, cette molécule va venir véritablement abîmer les structures fondamentales cérébrales qui sont toutes tendres et en pleine formation et maturation à ce moment-là. Donc il est important, non pas d'éviter tous les stress à l'enfant et de se mettre une pression qui serait complètement finalement contre-productive. Mais simplement, quand il est en situation de stress ou en prise à des émotions très fortes, il est important que nous soyons là à ses côtés pour l'aider à accueillir ces émotions qui sont trop fortes pour lui, qu'il ne peut pas réguler à ce moment-là, puisqu'il aurait besoin que son cortex préfrontal qui lui permet de prendre du recul, d'analyser les situations, soit mature. Il ne l'est pas à ce moment-là, donc il ne peut pas se calmer seul, prendre du recul. Ça, Catherine Guéguin l'explique très bien dans son livre « Pour une enfance heureuse ». Et donc, il a besoin, finalement, que nous lui servions, nous, de cortex préfrontal, que nous l'aidions à prendre de la distance, à mettre des mots sur ce qu'il vient de ressentir, sur la situation qu'il vient de vivre, pour finalement calmer son amygdale cérébrale, la sécrétion de cortisol, et que, progressivement, il retrouve un calme... qui retrouve son calme.
Et comment ? Par exemple, en le prenant dans les bras, en le serrant, en le mettant une protection autour de lui ?
Oui, la première chose à faire quand ils sont petits, puis même après, quand ils sont plus grands, voire même ensuite, quand on est adulte, hein, on en a moins besoin, mais parfois, ça peut être utile. La première chose à faire, c'est effectivement le contact physique, ou simplement un regard chaleureux et bienveillant, ou une main posée sur l'épaule, ou voilà, une présence avec une intention pleinement empathique et chaleureuse, aux côtés de l'enfant. Alors c'est vrai que pour les tout-petits, les prendre dans nos bras immédiatement, c'est encore plus fort, mais ça va venir immédiatement calmer l'amygdale cérébrale, qui est la structure dans le cerveau, qui est notre centre d'alerte de la peur et des émotions fortes, là, comme ça. Et si on a une attitude chaleureuse et on prend l'enfant dans nos bras, eh bien, ça vient calmer l'amygdale cérébrale. Donc, ça stoppe ou ça freine dramatiquement, rapidement, la sécrétion de cortisol. Donc, déjà, on a protégé l'enfant du cortisol à ce moment-là. Donc, c'est vraiment très, très efficace. Et ensuite, c'est pas terminé. L'idée, c'est de l'aider à mettre des mots. On sait aussi que mettre des mots sur ce que l'enfant a ressenti ou sur la situation qu'il a vécue, va l'aider à encore, de manière plus approfondie, apaiser son amygdale cérébrale. Et donc, il va entrer dans un état de calme et d'apaisement encore plus profond. Et puis, c'est pas tout. Et après, il faut l'aider. Alors là, c'est pas quand ils sont bébés, c'est un peu plus grand, mais déjà à 3 ans, on peut faire ça. C'est l'aider à trouver une solution. Comment faire maintenant que tu te sens comme ça pour aller mieux ? Ou s'il y a eu un conflit avec un copain ou avec un frère ou une sœur, comment est-ce que tu ne pourrais pas aller lui parler, lui exprimer ce que tu ressens ? Voilà. Exprimer aussi à l'extérieur, à l'autre, ce qu'on a ressenti permet de développer des outils pour les prochaines fois, eh bien, être plus autonome dans la régulation de ses émotions. Et tout ça, ça favorise le développement du cortex préfrontal. Donc cette structure cérébrale, qui est donc derrière notre front, qui va nous permettre d'être capable d'agir de manière, d'analyser les situations, d'agir de manière ordonnée, raisonnée, avec une prise de recul et une capacité à faire les choix les plus appropriés. Donc quand on est à côté de l'enfant, quand il est dans une situation de stress et d'émotions fortes, on ne fait pas uniquement que le protéger du stress. En parallèle, on est vraiment en même temps en train de permettre le foisonnement de connexions neuronales dans le cortex préfrontal, et donc on est en train de soutenir sa pleine autonomie vers la régulation des émotions. C'est vraiment un cercle vertueux, en fait.
Céline Alvarez, ensemble, nous parlons donc des enfants, et surtout des petits, nous parlions des nourrissons, et maintenant arrivons à l'âge des 3-5 ans. Alors, vous écrivez dans votre livre « Les lois naturelles de l'apprentissage » paru aux Arènes, que cet âge-là, et on le sait très bien, c'est moi tout seul. Moi tout seul, moi je veux faire ci, je veux faire ça, et tout seul, et je veux pas qu'on m'aide. Est-ce que ça correspond à quelque chose de profond, en fait? C'est pas un caprice?
Non. La plupart du temps, disons, ce n'est certainement pas un caprice. Après, on ne sait pas, quand il faut connaître l'enfant et la situation, mais la plupart du temps, en tout cas, quand ça vient vraiment spontanément au tout début, effectivement, vers 2 ans, l'enfant va être capable de l'exprimer. Il va dire « moi tout seul ». Mais même avant cela, il y a une période quand ils commencent à essayer de manger seul, donc quand ils ne sont pas encore capables de parler forcément, donc de nous exprimer verbalement leur besoin d'agir avec leurs propres mains et seuls, ils vont repousser tout simplement.
Oui, ça on connaît bien souvent.
Ils vont gentiment ou parfois de manière très
en mettre de partout,
très
aussi
frontale. Voilà, ils vont être partout, mais ils vont pousser notre main avec leurs mains ou faire non de la tête, parce que à ce moment-là. L'enfant, enfin à ce moment-là, et la période commence déjà quasiment au tout début de la vie, mais l'enfant, le jeune être humain, va rapidement entrer dans une période dite sensible de développement de ses compétences exécutives, de ses fonctions exécutives. C'est-à-dire que les compétences exécutives donc se situent dans le cortex préfrontal, hein, essentiellement, là, j'en parlais tout à l'heure, c'est cette partie du cerveau qui va nous permettre d'agir de manière, d'atteindre les objectifs que l'on se fixe de manière ordonnée et planifiée et organisée. Et donc, pour que les compétences exécutives soient pleinement fonctionnelles, eh bien, il faut pouvoir permettre, au moment où elles se développent, il faut permettre à l'enfant de pouvoir agir par lui-même, parce qu'en agissant par lui-même en essayant d'atteindre les objectifs qu'il se fixe, même s'il s'agit, pour nous ça paraît tout simple, mais pour lui c'est un grand défi, de se nourrir seul, de lacer ses chaussures seul, de s'habiller, de mettre son pantalon seul ou de bêcher la terre seul, avec évidemment un outil adapté, eh bien il va devoir, pour atteindre son objectif, solliciter ses compétences exécutives, c'est-à-dire sa mémoire de travail, sa flexibilité cognitive et son contrôle inhibiteur. Alors j'en parle beaucoup dans le livre, là je pourrais pas beaucoup développer, mais la mémoire de travail, c'est ce qui va lui permettre, enfin c'est ce qui va nous permettre de retenir un certain nombre d'informations sur un temps court et de les organiser pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé. La flexibilité cognitive, c'est la capacité que nous allons avoir à détecter notre erreur en chemin entre nous et notre objectif, et de trouver une stratégie plus appropriée pour surmonter l'erreur et pour atteindre notre objectif. Donc ça nous permet la créativité, la persévérance, donc c'est vraiment capital avoir une bonne flexibilité cognitive. Et le contrôle inhibiteur, c'est la troisième compétence fondamentale exécutive, qui est la capacité à s'auto-réguler, à réguler nos émotions, réguler nos gestes et être capable aussi de différer une envie pressante, peut-être plus superficielle, mais qui nous détournerait de notre objectif. Donc être capable de se dire, bon là c'est peut-être un peu laborieux, mais je vais m'y tenir, je diffère une envie voilà, plus superficielle pour aller au bout de mon objectif, pour atteindre mon objectif. Et donc ces compétences fondamentales vont se développer lorsque l'enfant va pouvoir faire seul, tout simplement. Il ne s'agit même pas de lui proposer une méthode pédagogique venue d'un autre monde. Il s'agit simplement de lui respecter et de soutenir son envie de faire seul au moment où elle se présente. C'est tout.
Donc ne pas l'entraver.
Ne pas entraver. C'est notre plus grand travail, c'est de réussir d'être à la bonne distance, de ne pas empêcher, de ne pas entraver, tout en n'abandonnant pas non plus l'enfant à sa tâche tout seul. Il s'agit d'être là, sans entraver, en étant assez présent au début et puis en s'effaçant très progressivement, voire assez rapidement pour certains enfants qui en expriment le besoin. Voilà, c'est d'être là, de soutenir sans entraver.
et sans les surstimuler. Vous insistez beaucoup dans votre livre là-dessus, c'est-à-dire que vous écrivez qu'on peut trouver pour ces enfants, en fait, l'extraordinaire, il est dans l'ordinaire. C'est pas la peine d'inventer des choses extraordinaires ou d'avoir des jeux très compliqués ou de surstimuler les enfants.
Ce qui va passionner les enfants, ce qui va passionner les jeunes êtres humains, c'est le monde extérieur, le monde réel. C'est ce que les objets que nous manipulons, c'est toute cette culture à laquelle finalement ils sont nés prématurément pour se l'approprier. Le cerveau humain naît immature. Pourquoi ? Ça semble complètement aberrant de se dire comment ça se fait que le jeune être humain naît avec un cerveau si immature, il va lui falloir des années pour être autonome. À quoi ça sert ? En plus, ça le rend extrêmement sensible et vulnérable au stress, à l'environnement extérieur. Donc pourquoi est-ce que la nature serait complètement perdue la tête. Non, c'est comme si l'être humain était projeté dans le monde extérieur pour finir la formation de son intelligence dans le monde. Ce qui va lui permettre d'intégrer et d'assimiler sans aucun effort la culture des générations précédentes. Il va simplement grandir et vivre avec, donc il va l'intégrer sans effort. Donc c'est exactement notre culture telle qu'elle est qui va passionner l'enfant. C'est pas les substituts de réalité que nous lui donnons, c'est pas les jouets en plastique, les cuillères en plastique, etc. Il va peut-être finir par s'en accommoder au bout d'un moment. Mais au départ, on le sait bien, nos bébés, ils vont être attirés non pas par la cuillère en plastique, mais par la cuillère en métal, par les couverts que nous utilisons. Quand ils vont déchirer un cadeau que nous leur faisons à un an, c'est le papier qui va les intéresser, quoique peut-être un petit peu avant, mais ce sont les choses réelles. Et peut-être que la plus grande responsabilité, la plus grande chose que nous pourrions faire, c'est peut-être de nous rendre compte qu'il est peut-être temps d'arrêter de faire des choses et d'essayer d'inventer des nouvelles choses pour nos enfants, mais peut-être revenir à l'essentiel, revenir à ce que nous avons déjà là sous le nez et qui passionnerait nos enfants si simplement nous leur donnions accès plus simplement. Revenir à l'essentiel, des choses beaucoup plus simples.
La vie est un art, Bénédicte Draillard.
Pour résumer, Céline Alvarez, un peu de ce que vous nous avez dit, quelle est la bonne attitude, la bonne posture à adopter avec un enfant ? Alors vous avez dit, réfréner un peu notre réflexe de vouloir l'aider, de ne pas l'entraver dans ce qu'il a envie de faire. Il faut laisser un petit peu l'enfant, mais pas être trop loin, vous disiez.
Disons, pas faire à sa place. L'aider, oui. Mais ne pas faire à sa place, c'est-à-dire apporter une aide utile, comme disait Montessori. Je trouve que c'était vraiment quelque chose d'important ce qu'elle avait souligné là. C'est comment j'aide sans faire à la place de l'enfant. Parce que l'enfant ne pourra pas développer son intelligence si nous faisons nous-mêmes à sa place. Ça ne va pas l'aider que nous faisions pour lui ce qu'il doit faire. Donc il faut qu'on puisse lui permettre de faire, qu'on soit à ses côtés, dans une aide, dans une posture d'aide, mais qui ne soit pas une posture de « laisse-moi faire ce que tu es en train de faire, je vais le faire plus vite que toi et regarde comment je fais, tu le feras plus tard tout seul ». Non, ça ne peut pas aller. C'est comment aider, mais sans faire à la place de l'enfant.
Alors, vous disiez aussi, les premières personnes qui ont écouté vos premières émissions, me disaient « ça c'est bien, mais c'est idyllique ». C'est-à-dire que nous, dans notre classe, par exemple, si on est instit, eh bien, les enfants sont très très vite déconcentrés. Si on s'approche de l'un pour faire travailler l'un, il y a tous les autres pendant ce temps qui font la foire, etc. Et donc, dans votre livre, vous expliquez bien aussi tout ce qui est comment aider pour qu'il y ait moins de distractions, comment ils peuvent développer entre eux un certain contrôle d'eux-mêmes, en fait, c'est ce que vous avez expliqué, pour être moins déconcentré, puis aussi peut-être se décourager moins vite.
Mais tout ça, on en revient, en fait, finalement, toujours à la même chose. Vous voyez, moi, c'est ça qui me passionne, c'est qu'au final, c'est extrêmement simple en théorie. Après, la pratique, il faut du temps et différentes étapes, mais finalement, c'est toujours autour de la même chose. Il faut permettre à l'enfant de développer ses fonctions exécutives, ses compétences exécutives, parce que ce sont, comme j'explique dans le livre, les compétences socles de notre intelligence. Elles sont plus prédictives que
le QI, vous disiez.
Que le QI pour la réussite globale, la réussite scolaire, l'épanouissement social, professionnel, même émotionnel. Donc, plus généralement, pour toutes les situations de la vie, pour qu'un être humain soit capable de se fixer des objectifs et de les atteindre, donc pour réaliser tout ce qu'il veut dans le monde, et donc avoir un impact aussi créateur fort et une possibilité d'épanouissement personnel très forte, eh bien, il faut qu'il puisse développer ces compétences-là qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais dans la classe et en général à la maison, pour permettre à nos enfants d'être pleinement autonomes, c'est-à-dire être capables de choisir une activité qui leur convient, d'aller au bout, d'être calmes, autodisciplinés, de pouvoir avoir des relations apaisées avec leur père, P-A-I-R-S, mais leur père aussi, finalement, leur père et leurs parents. Il faut simplement, encore une fois, leur permettre de développer de bonnes compétences exécutives et avec un bon soutien aussi émotionnel, une bonne régulation du stress. Parce que quand un enfant a développé un bon contrôle inhibiteur, eh bien, il est capable d'aller au bout d'une activité. Donc, par exemple, quand vous expliquez que si un enseignant va essayer d'expliquer une activité à un enfant, ça devient vite le bazar autour parce que 15 autres viennent à côté pour voir ce qui se passe. Oui, mais s'ils ont un bon contrôle inhibiteur des autres et qu'ils sont sur une activité qui les passionne, certains ne vont même pas voir ce qui se passe à côté. Ils vont être simplement sur leur tâche qu'ils ont choisie, qu'ils aiment. Et quand bien même ce que l'enseignant ou l'adulte est en train de faire à côté les intéresse, ils vont être capables de se dire non, pas tout de suite. Là, pour l'instant, je suis sur quelque chose qui me... Enfin, tout ça ne sera pas formulé, mais ce sera dans l'élan, quoi. Ils resteront sur leur tâche pour aller au bout de leur activité. Il y aura une autodiscipline. Mais l'autodiscipline, elle se construit de l'intérieur par le développement des compétences exécutives. Elle ne se construit pas de l'extérieur par la discipline. La discipline ne se construit pas par la discipline. Elle se construit parce qu'on a permis à l'enfant de laisser émerger les compétences qui font fleurir par-dessus, c'est la cerise sur le gâteau, l'autodiscipline. Qui est donc, c'est finalement, un enfant autodiscipliné, c'est un enfant qui fait preuve d'un bon contrôle inhibiteur et qui, en plus, a développé une bonne capacité de réflexion, d'analyse, parce que c'est un enfant, a priori, qu'on a aidé à agir et à faire seul avec de l'aide dans le monde. Et même si ça semble idyllique, enfin ça semble idyllique, mais ça ne l'est pas du tout, hein, parce qu'à Gennevilliers, on a montré que c'était possible. Il y a aujourd'hui maintenant des centaines d'enseignants qui reprennent cette façon de travailler sur le terrain au sein de l'éducation nationale et qui me témoignent par mail. Donc j'espère bientôt aller pouvoir les interviewer ou les filmer, mais pour montrer que c'est réel, quoi, c'est possible. Ils m'expliquent que en ayant permis aux enfants d'être de plus en plus autonomes, même si au début c'est le bazar, parce qu'effectivement les enfants n'ont pas de bonnes compétences exécutives. Souvent elles sont sous-développées parce que c'est des enfants qui ont eu l'habitude à ce que les parents fassent tout à leur place ou beaucoup de choses à leur place. Et on arrive avec des enfants qui sont là, qui ne savent pas se contrôler, qui ont du mal à se fixer des objectifs, qui ont du mal à persévérer, qui ont du mal à être créatifs aussi. Et donc même si au début c'est difficile, progressivement, par un étayage soutenu et ferme, parfois, il faut ça, quand on est dans cette phase de remédiation, finalement, hein, de réparer ce qui n'a pas été construit ou pas assez, eh bien, progressivement, ensuite, les enfants redeviennent résilient quelque part de ce qu'ils n'avaient pas pu construire et ils deviennent de plus en plus calmes, de plus en plus centrés, de plus en plus critiques, avec une critique positive des situations. Vraiment, ils deviennent beaucoup plus épanouis et centrés. Je crois que c'est ça le mot.
Merci Céline Alvarez. Nous retrouverons la prochaine fois pour un petit peu toujours approfondir, toujours plus ce sillon pour comprendre un petit peu les lois naturelles de l'enfant. À bientôt.
Merci, au revoir.